pensées, des aventures magiques d'enfance au fond, trop effacées, trop enfoncées, entre foncier et fonce des réalités, un râle surgit dans mon esprit, lance mes doigts, touche ce triolet, jeu de clé, résultant souvent de poche trouée, alors je recoule leur voile avec stylo et papier.
Radio Canu, les bandes continuent avec, dans un premier temps, Marie-Lou, laissez-nous respirer. Dans un deuxième temps, Jeff Zima, le corbeau et le renard. Et dans le troisième temps, dans nos poches, de Scarecrow.
dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
La première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Oui, pour arrêter de se faire exploiter la foule.
Quand des gens ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé ou même souvent de leur vie pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés. Et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron. Et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous.
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Canu Info.
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Ben allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, il y a 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les 2 heures, je suis chômeur, je suis pointé.
Bonsoir. Vous êtes bien sur le Radio Canu du 20 janvier 2020. Il est 19h12.
On est en retard et on vous prévient tout de suite. On n'est pas nombreux, on n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer nos sujets. On a eu des galères de clés USB. Alors vous êtes sur le point d'écouter un mini Canu Info.
Et mais c'est mieux que rien.
Mais c'est mieux que rien. Et on commence tout de suite par des nouvelles du... Ah non, je vais quand même vous donner les titres. On va parler à l'international seulement du Liban pour enchaîner après avec tous nos sujets au national. On parlera d'abord de Macron exfiltré du théâtre des bouffes et de Tabouaf arrêté. Ensuite, on parlera du dernier cas de violence policière pour enchaîner avec l'intrusion au siège de la CFDT. Des nouvelles de la Manif pour tous qui a manifesté à nouveau à Paris, puis du nouveau bras d'honneur de Macron, c'est-à-dire 180 patrons invités à Versailles, pour finir sur l'histoire de l'éboueur licencié à cause d'une photo au prud'homme. Et puis on terminera avec l'agenda. Et on commence tout de suite avec l'international et le Liban.
Oui, alors le Liban, on avait parlé ici, a connu une vague de soulèvement depuis le mois d'octobre, qui avait connu à cause de deux déclencheurs. D'abord l'annonce de taxes, en particulier sur l'application très populaire de WhatsApp, mais aussi une série d'incendies dans le pays qui avaient été gérés par des bénévoles non payés. Tout ça avait accompagné la critique d'un gouvernement et des milliers de personnes étaient descendues dans la rue. Il y avait eu après ensuite un moment de calme, jusqu'à la semaine dernière où il y a vraiment un regain de la mobilisation très très fort toute la semaine, après 4 mois de lutte. Toujours sur le long les mêmes mots d'ordre, le mouvement demande toujours la démission du Premier ministre qui avait été obtenu, mais un autre Premier ministre qui a été élu en décembre. Cette mobilisation aussi, on le rappelle, a pour caractère principal d'être interconfessionnelle. Elle se prononce contre la partition confessionnelle du gouvernement où chaque fonction politique est distribuée à un représentant d'une communauté confessionnelle particulière. Donc contre cette division-là, on a un premier mouvement interconfessionnel qui avait grandi, qui avait vraiment pris une force très très forte et qui avait aussi énoncé un message très fort contre la corruption générale et contre l'élite milicienne qui tenait le pays, élite milicienne qui est donc héritée de la guerre civile hein, qui s'était arrêtée en 90. Donc suite à ces nouveaux appels à manifester, donc une semaine très très forte, marquée aussi par une série d'actions directes contre les banques, ce qui est un fait nouveau, et qui annonce selon certains une crise des liquidités en cours, cachée en partie par le gouvernement, dans un contexte économique très 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 fragile. Hein. On a un quart de la population qui est sous le seuil de pauvreté, une dette qui monte à plus de 150% du PIB. Et le point d'orgue de cette série de mobilisations a eu lieu samedi dernier, qui était une vraie journée émeutière au centre même de Beyrouth, avec, on l'a dit, plusieurs attaques, mais aussi des routes bloquées. Et les banques, des attaques de banques nombreuses, banques qui étaient avant considérées comme des institutions assez respectables au Liban après la guerre civile. Bref, tout ça est une nouvelle mise en garde contre la lenteur de ce premier ministre provisoire qui a été élu, cette lenteur à mettre en place un gouvernement autonome et indépendant et transitoire qui est appelé par le peuple et qu'il vient ici, comme une piqûre de rappel, remettre à l'évidence dans la rue.
Et on enchaîne avec Retour en France, où on va parler de Macron.
Et oui, on a tous entendu parler, et puis enfin moi perso en tout cas j'ai kiffé, hein. Vendredi soir dernier, alors que notre cher président Macron assistait à sa petite représentation théâtrale, hein, c'est la petite sortie du week-end avec Brigitte, donc là c'était au Théâtre des Bouffes à Paris, et bien il a dû être exfiltré en urgence par son service de sécurité, hein. Raison de cette fuite soudaine, et bien en fait des manifestants opposés à la réforme des retraites s'étaient infiltrés dans l'enceinte du théâtre. Alors que la rumeur de la présence du président de la République au Théâtre des Bouffes enflait sur les réseaux sociaux, il y avait déjà une centaine de manifestants venus d'une réunion politique organisée à proximité qui s'étaient rassemblés devant le théâtre. Mais il y a quelque chose de particulier avec cette affaire, c'est que le hasard a fait que le journaliste Taha Bouaf, que vous connaissez sûrement, qui travaille pour la radio Là-bas si j'y suis, qui a été fondée par Daniel Mermet il y a quelques années, eh ben, lui aussi était présent juste deux rangs derrière Emmanuel Macron. Ainsi, il a tweeté plusieurs fois, vidéo à l'appui, pour indiquer la présence du président, mais aussi des manifestants. Ce qui lui a valu d'être directement désigné comme le responsable des incidents par la garde présidentielle, qui a ordonné son interpellation immédiate. Bon, il est ressorti donc samedi soir, sans avoir été placé en examen, mais toutefois avec le statut de témoin assisté. C'est le statut qu'on donne aux personnes quand on n'a pas assez de preuves pour les inculper. Alors, pour une énième fois, hein, Taha Bouaf, comme Kaspar Glantz avant lui, se retrouve la cible de la répression policière. Déjà le 11 juin dernier, donc en 2019, il avait été interpellé alors qu'il couvrait une manifestation des grévistes sans papier de Chronopost à Paris. Alors, depuis l'élection d'Emmanuel Macron en mai 2017, en fait, les attaques du gouvernement contre les médias, elles touchent toute la chaîne de production de l'information. Elles se manifestent tout d'abord dans des projets de loi et des textes législatifs, hein, dont les deux piliers sont en fait la loi dite du secret des affaires, donc qui permet aux entreprises d'attaquer plus facilement les rédactions et surtout les lanceurs d'alerte, et la loi fake news qui permet d'appliquer une censure beaucoup plus forte sur les réseaux sociaux notamment. Elles prennent aussi la forme de saignées budgétaires, donc des baisses de dotation infligées à l'audiovisuel public notamment, et qui réduisent petit à petit sa capacité à produire une information de qualité. Et aussi, elles se retrouvent encore dans des plaintes gouvernementales qui ciblent des articles de presse jugés embarrassants pour l'État et ses affaires politico-économiques, ou dans des convocations de journalistes hein, par l'appareil d'État, en particulier récemment. Donc on a eu les journalistes qui enquêtaient sur les ventes d'armes au Yémen, qui avaient été quand même convoqués par les services secrets. Et puis elle s'exerce, et là on arrive au cas de Taha, mais aussi de Kaspar Glantz, hein. Elle s'exerce dans une forme de répression directe, physique, de la police à l'encontre des journalistes, mais aussi judiciaires, qui sont visés en tant que tels, entravés dans l'exercice de leur métier, donc comme c'est le cas ici avec Taha Bouaf. Alors si beaucoup d'associations de journalistes et de rédactions ont manifesté donc, leur solidarité et réclamé la libération immédiate de Taha, hein, comme la Fédération Européenne des Journalistes, il y en a aussi beaucoup qui ne sont pas positionnés ou voire même qui ont carrément nié à Taha Bouaf sa qualité de journaliste. En tout cas, beaucoup de militants macronistes l'ont fait, justifiant ainsi sa garde à vue sous le prétexte qu'il serait un journaliste militant, enfin qu'il ne serait pas un vrai journaliste, il serait un militant. Donc on lui reproche particulièrement son passé à la France Insoumise, hein, il y a plusieurs années, ou encore sa participation aussi, là c'est peut-être plus légitime en quelque sorte, mais à la rumeur sur la mort d'un étudiant lors de l'évacuation de la fac de Tolbiac en 2018. Bon, mais à l'époque, il n'était pas encore journaliste, il faut quand même le noter. Ainsi, trop dérangeant par les sujets qu'il couvre et puis aussi par son approche de ces sujets, Ta est jugé non conforme au statut de journaliste par ceux qui veulent établir ce qui relève du journalisme ou non, c'est-à-dire plutôt ce qui est du domaine du disable ou du montrable dans le débat public. Alors, pourtant, la profession de journaliste, hein, elle n'est pas réglementée comme les autres. Selon la loi, est journaliste toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources. Ta Bouaf répond à ces critères. On a donc tous les chiens de garde du système, les journalistes et éditocrates assermentés, qui annonnent en cœur pour cracher sur Taha, car son propos et ses méthodes dépassent le cadre autorisé dans les médias dominants, hein, c'est-à-dire remettre en cause l'État, sa police, les pratiques de sa police, mais aussi les dégâts de l'économie capitaliste, et bref, du système dans son ensemble. Ce n'est pas du travail de journaliste. Bah non. Hein, même les plus petits journalistes, tellement sûrs de leur légitimité à dire le vrai du faux par rapport au reste de la population, s'y sont mis. Hein, certes, ben, enfin pas tous, hein, heureusement, mais biberonnés pendant toute leur formation et leur vie professionnelle avec cette idée, enfin cet idéal qui aurait une espèce de pseudo-journalisté, neutralité, pardon, journalistique, donc juste des faits bruts, la pure réalité factuelle, et ben ils se retrouvent à dénoncer Ta comme militant. Hein. Comme si le traitement médiatique dominant, hein, avec ses sujets favoris, ses angles d'interprétation récurrents, sous prétexte qu'il est omniprésent, donc serait neutre. Hein, ce n'est pas parce qu'on entend Christophe Barbier et consorts ou François-Olivier Gisberg dire la même merde et défendre les mêmes réformes structurelles depuis des années, des décennies, genre El Kabash, qui est présent depuis les années 70, qui sort exactement les mêmes propos sur la nécessité de libéraliser l'économie, bah, c'est pas parce qu'ils sont omniprésents et qu'on les entend sur toutes les longueurs d'onde que leurs propos sont neutres. Hein. Eux aussi, c'est un peu des journalistes militants à leur manière, sauf qu'ils militent pour l'autre côté. Bon, bref. Aujourd'hui, en plein durcissement autoritaire et avec une bourgeoisie de plus en plus violente, bah, il apparaît, alors, et ici on le voit bien, hein, pour l'État et les dominants, indispensable d'assurer que les médias continuent à remplir leur mission de fabrication du consentement. Alors, sur la notion de fabrication du consentement, je vous invite à lire Noam Chomsky, hein, qui l'a théorisé, mais en gros, cette idée que les médias sont le contre-pouvoir en démocratie, bon, c'est pas tout à fait ça, quoi. Donc bref, toute pluralité et propos critiques doivent être étouffés. Et cette attaque, là, ici, à laquelle on vient d'assister, bah, on annonce d'autres. Et clairement, on peut s'attendre à ce que nos médias, enfin, j'entends les médias qui défendent encore une certaine idée des droits humains, de la démocratie, et puis aussi de la justice sociale, soit de plus en plus attaqué. Canu Info aussi. Hein. On l'a déjà vu quand même quand il y avait une perquisition il y a quelques années. Donc voilà, il faut rester vigilant et continuer la lutte.
Bonne transition, la perquisition, puisque, surprise, on vous parle encore de violences policières. Pour nous et pour vous, auditeurs fidèles des Canu Info, les violences policières, elles sont permanentes et surtout, elles ne sont pas nouvelles. Elles ont lieu systématiquement dans presque toutes les manifestations. Mais on va le voir, ce n'est pas l'avis de tout le monde. Il y en a qui semblent découvrir le phénomène à chaque fois que sort une vidéo accablante. La dernière vidéo, justement, c'est celle d'un policier à Paris, encerclé par ses collègues et qui donne des coups de poing à un manifestant au sol, alors que celui-ci est déjà maîtrisé, dans l'incapacité de fuir ou de se défendre, et le front déjà en sang. Le recoupement des vidéos de samedi dernier permet de constater que c'est un collègue de ce premier flic qui a causé l'ouverture au front du manifestant. Alors, une enquête de l'IGPN a été ouverte, ce qui risque bien de ne servir à rien d'autre qu'à déclarer qu'une enquête de l'IGPN a été ouverte. Et le manifestant qui n'a pas été arrêté, après avoir subi cette répression gratuite de flics faisant justice eux-mêmes, a été pris en charge par les médics dans la manif, puis a été sorti. Et déjà, on peut rire jeune des premières déclarations du syndicat policier Alliance qui justifie les coups de poing par le fait que le manifestant aurait craché du sang au visage de son agresseur. Apparemment, chez Alliance, ils sont pas assez malins pour se rappeler que c'est bien à cause d'un flic qu'il y avait du sang à cracher. Et on rit encore plus jeune en écoutant sur France Inter la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, s'acharner à qualifier ça de fait isolé et individuel. Je la cite, elle dit... Il faut distinguer d'une part l'activité des forces de l'ordre qui sont soumises à beaucoup de pression. Il faut aussi saluer le travail qu'elles font, évidemment. Et plus tard, elle continue, pour moi, les violences policières caractérisent une volonté de l'État qui est sciemment pensée. Alors, grosse divergence d'interprétation entre nous et Nicole Belloubet, puisque l'État donne quand même le pouvoir à des milliers d'agents d'effectuer ces violences policières, que ces violences sont dans l'immense majorité impunies et qu'il s'agit là de deux facteurs qui ne peuvent qu'encourager les violences, c'est-à-dire l'impunité et le pouvoir, qui ne peuvent que mener à l'abus de pouvoir. Et enfin, il ne s'agit pas de cas isolés. Pour ne citer que les cas très récents, il y a aussi la vidéo d'un croche-pied le 9 janvier et un tir de LBD quasiment à bout portant le même jour. Et si on n'est pas trop de mauvaise foi, on en trouve plein d'autres, des exemples, avec des preuves filmées à l'appui sur Internet. Petit rappel de la fin, le non-lieu a été confirmé pour le gendarme responsable de la mort de Rémi Fraisse à Sivens. Il avait pourtant tiré une grenade de désencerclement sans visibilité. Certainement de quoi encourager les forces de l'ordre à respecter les manifestants. Et puis, quelques mots sur l'intrusion de la CFDT ?
Oui, la CFDT qui a rendu une petite visite... la CGT plutôt, qui a rendu une petite visite sympathique à la CFDT. Et là, c'est cette fois-ci un coup de la CGT, surtout Énergie, qui, avec une quinzaine de personnes cagoulées, sont rentrées dans les locaux, direction directe le compteur électrique, pour plonger le super syndicat réformiste Collabo dans le noir. Alors cette petite visite surprise a lieu 3 jours après une autre visite qui était un peu plus suivie, un peu plus massive, qui avait été aussi appelée par la coordination cheminots et RATP et qui avait été dénoncée comme une sorte d'une violence inouïe, hein, évidemment.
Une violence... à la démocratie.
Bah oui, au moins. En tout cas, incomparable à ce qui se passe dans la rue, c'est sûr.
Bah oui, oui, non, mais pauvre Laurent Berger, quoi.
Voilà, donc toutes ces actions, évidemment, elles ont pour but d'abord de dénoncer la collaboration du syndicat de la CFDT avec le gouvernement pour des lois régressives socialement. C'est une manière donc d'attaquer directement Laurent Berger, mais ceci est un appel, sans doute, fait aux bases de la CFDT pour dépasser, évidemment, la décision de sa centrale et de se positionner en porte-à-faux en s'inscrivant dans la continuité de cette lutte qui est loin d'être finie.
Ainsi, y a-t-il des moutons noirs à la CFDT de Laurent Berger ? On verra bien.
On verra bien et on les incite à se réveiller puisqu'en 95, c'est arrivé que ce soit les adhérents de la CFDT eux-mêmes qui s'en prennent à leurs représentants alors quand celui-ci déclarait qu'il était satisfait des négociations avec le gouvernement. Ça pourrait être encore le cas aujourd'hui si les adhérents le voulait. On parle ensuite de la manif pour tous.
Oui, alors la manif pour tous, ça fait longtemps, tiens. Alors la manif pour tous, la nouvelle fois organisée, une journée de mobilisation contre le projet de loi sur la bioéthique. Hein, donc je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Donc c'est un projet de loi qui vise en particulier à ouvrir la procréation médicalement assistée, donc la PMA, à toutes les femmes. Bon, un projet assez controversé par les religieux, les traditionalistes et réactionnaires de tout poil, dans la mesure où il met en péril le modèle naturel, avec des gros guillemets, hein, ou plutôt traditionnaliste, hein, ce serait plus juste, de la famille nucléaire, donc c'est-à-dire un père détenant l'autorité parentale et une mère prodigueuse de care, de soins, etc., s'occupant de la maison. Bon, je caricature, hein, mais... Bref, une vision de la société naturalisant les assignations à des rôles genrés. Ainsi, l'ouverture de la PMA leur pose problème dans la mesure où elle permet en particulier aux couples lesbiens la possibilité de fonder une famille sans avoir à se rendre dans un autre pays européen. Donc ce dimanche, les manifestants étaient plusieurs milliers, hein, venus toute la France à Paris, avec près d'une centaine de cars et une vingtaine de trains affrétés pour l'occasion pour rejoindre la capitale. Donc une organisation très poussée, assez millimétrée, et aussi avec une débauche de moyens, hein, avec moult fanions, t-shirts et pancartes distribués et vendus en masse. Bon bilan, rien de très intéressant à retenir, si ce n'est que malgré ses efforts, la Manif pour tous n'est plus que l'ombre d'elle-même. Hein, elle n'arrive pas à avoir la même visibilité, la même puissance que sous le quinquennat Hollande, car notamment invisibilisée par le mouvement social en cours contre la réforme des retraites. Et j'ai envie de dire, c'est tant mieux. Toutefois, faut pas nier qu'elle possède toujours un pouvoir de nuisance qui n'est pas à négliger. Alors ici, c'est en particulier le nouveau discours déployé par le mouvement qui est dangereux politiquement à mes yeux. Alors je m'explique. On a les organisateurs qui présentent la mobilisation comme relevant d'une crainte d'une marchandisation totale de la société. Jusqu'au même à ce qu'il y a de plus innocent et de plus sacré, hein, l'enfant lui-même. Voilà. Donc les opposants au projet de loi dépeignent une espèce de futur donc apocalyptique, un peu comme l'effondrement en quelque sorte, où toutes les bonnes valeurs et où le haut et le bas sont inversés, un monde où les familles vont chercher et concevoir des bébés comme ils vont au supermarché ou en consultant un catalogue, donc avec des petites éprouvettes et tout ça. Bon, un discours qui se veut en fait pseudo-anticapitaliste, enfin ou plutôt anti-libéralisme, qui est assez opportuniste car il reprend à son compte le mécontentement général de la population face au capitalisme néolibéral et à ses dérives actuelles. Ainsi, certaines affiches qu'on a pu voir pour appeler à la mobilisation dénoncent le bilan carbone pour l'emploi d'une mère porteuse résidant à l'autre bout du monde. Une autre affiche dénonce le business des banques de sperme. Une troisième affiche dénonce l'exploitation aliénante des mères porteuses. Ou encore, il y en a une qui dénonce le financement de la PMA alors que l'hôpital public est en crise et que les urgences sont débordées. Voilà. Donc on voit l'hypocrisie quand même crasse et l'outrance, faut vraiment oser quand même pour faire ça, que se permettent les bourgeois réactionnaires qui composent la Manif pour tous. Alors qu'eux-mêmes partent chaque année en vacances à l'étranger en avion, en croisière, ils osent parler de bilan carbone. Alors que beaucoup sont eux-mêmes cadres ou patrons à l'heure où le management n'a rarement jamais été aussi violent, ils osent parler d'exploitation et d'aliénation. Alors qu'ils ont soutenu Fillon, grand partisan et acteur des cures d'austérité dans le secteur public et l'hôpital, et alors qu'ils se tournent eux-mêmes majoritairement vers des cliniques privées, ils osent évoquer la crise de l'hôpital public dont ils sont en partie responsables. Voilà, ces petites manipulations, elles sont symptomatiques d'une époque aussi, de notre époque, où le brouillage des barrières idéologiques touche toutes les sphères de la société. Elles nous informent aussi sur les dangers de liens qui peuvent se créer via un discours se focalisant sur quelques dérives du néolibéralisme et non pas sur le capitalisme en tant que système. Ainsi, on a pu voir récemment José Bové s'associer aux réactionnaires dans leur critique de la loi sur la bioéthique. Enfin, merde quoi. Trop souvent maintenant, on a des écologistes à la rhétorique vaguement anticapitaliste, comme Pierre Rabhi par exemple, qui s'associent aux réactionnaires dans une vision traditionnaliste de la société et dans un rejet de la modernité. Alors cette confusion politique, c'est un vrai danger pour nos luttes et la réussite du combat écologique. Car les courants comme l'écologie intégrale, donc porté par l'extrême droite catholique intégriste. Donc c'est un courant qui associe défense de l'environnement et défense de la famille traditionnelle, parce que la famille traditionnelle, c'est naturel, donc c'est défense générale de la nature. Bref, ces mouvements, ils portent en eux le risque d'associer l'écologie à un modèle de société autoritaire, fascisant et réactionnaire. Ainsi, pour éviter cette confusion, sachons démasquer les hypocrites. Ceux qui instrumentalisent une critique du capitalisme pour rejeter la modernité dans son ensemble, même quand elle est synonyme de progrès social et humain. La vraie critique de la modernité se doit de porter sur la manière dont elle alimente les logiques prédatrices du capitalisme et l'exploitation des êtres humains par d'autres êtres humains, et non pas sur les évolutions sociétales et les progrès des droits sociaux.
Oui, et puis on peut dire aussi que pour des personnes qui sont assez promptes à dénoncer les soi-disant dérives de l'avortement, être contre l'exploitation du corps des femmes, c'est carrément hypocrite, puisque quoi de plus exploitant pour une femme que d'être forcée à mettre au monde un enfant qu'elle ne veut pas. On reparle un peu de Macron et de ses amis les patrons ?
Eh ben oui, Macron aujourd'hui, il a fait une petite fête dans un lieu qui n'est pas neutre, qui est quand même Versailles. Et il a invité aujourd'hui plus de 180 PDG du coup dans ce grand château à l'occasion d'un sommet international qui s'appelle Choose France. pour faire un peu anglais quand même, pour accent, qu'il soit un peu attractif.
Ouais, ton accent, c'est pas trop ça. C'est pas très Startup Nation, là, faut mieux le dire que ça.
Je peux continuer mon sujet ?
Oui, avec plaisir.
Donc, dans un contexte quand même de lutte, qui peut quand même pas nier, même s'il fait tout pour le faire, convoquer comme ça le gratin international de l'économie néolibérale, c'est quand même un sacré doigt d'honneur. C'est encore plus un doigt d'honneur que c'est pas la première fois. Là, on a vraiment affaire à un cas de récidive dans l'obscénité, puisqu'il y a un an, en plein cœur du mouvement des Gilets jaunes, Macron avait déjà fait le coup, il avait invité des PDG à Versailles pour un grand dîner. Alors c'est le signe de quoi de faire ça ? Évidemment, c'est d'abord le signe d'une autosuffisance, d'une confiance en soi complètement outrancière. Mais au-delà de ça, c'est aussi le signe d'une sorte de stratégie rhétorique qui est complètement abandonnée. C'est-à-dire que le gouvernement ne fait même plus l'effort d'un semblant de justification par l'intérêt général de ses réformes. Il assume la rupture entre le président des riches qu'il est et le reste de la population. Il assume, en quelque sorte, par l'annonce de ces gouvernements en grande pompe, des intérêts divergents et des intérêts de classe qu'il cherche même plus à nier. C'est-à-dire que la rhétorique sociale, la rhétorique de l'intérêt commun ne prime même plus sur la réalité purement financière des réformes. Alors cette petite sauterie entre amis, effectivement, elle convoque des entreprises qui ne sont pas n'importe lesquelles, parce que ce sont les premières évidemment qui licencient massivement, qui suppriment des emplois. On peut citer l'exemple de General Electric qui supprime 8000 emplois à Belfort dans les prochaines années. Ce sont les entreprises évidemment qui organisent les évasions fiscales. Il y a au moins deux cabinets d'audit invités, mais aussi évidemment celles qui les font, ces évasions fiscales, et qui en profitent. Google, Netflix, tout ça, ils sont sur la liste des invités. D'autre part, on peut dire que inviter 19 ministres et 180 chefs d'entreprise de 40 nationalités différentes, c'est évidemment une manière d'organiser aussi, sous les dorures de Versailles, les assauts futurs du capitalisme. C'est une manière de s'accorder autour d'une bonne bouffe la libéralisation du marché, la flexibilisation, et aussi de redorer évidemment le blason de Macron en faisant un bilan positif de tout ce qu'il a fait jusqu'à là. Et ça veut dire que ce qui est vécu évidemment comme les uns comme une casse inédite des acquis sociaux, une précarisation massive de la population, est vécu comme, par les autres, comme des atouts en termes d'investissement, en termes de promesses de profit. D'autre part, ce qui ressort et ce qui a été annoncé par Macron lors de cette rencontre invitation sommet financier, c'est la vente, ou quasiment le cadeau, de 12 sites industriels clés en main. Ça, c'est son expression. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce cadre complètement grandiose et complètement indécent sera l'occasion de 12 contrats entre les grosses entreprises parmi ces 180 PDG et l'État qui vont mettre en vente des sites industriels français dans des plans qui sont déjà élaborés en amont pour faciliter toutes les procédures, pour les accélérer. Et parmi ces sites industriels, il y en a plusieurs qui sont des sites écologiques, qui sont des menaces non seulement sociales, on l'a dit, par les licenciements, mais aussi écologiques très forts. En particulier un site industriel qui est sur les bords de Loire. Pour en savoir plus, il y a le détail et un peu le détail de ce projet donc de vente et de privatisation du site industriel sur la page Facebook de Terre Commune qui justement recense et précise un peu l'état de cette zone humide et sa mise en péril. Donc voilà, encore un coup indécent. Aujourd'hui, il y avait des tentatives de blocage évidemment autour de Versailles, mais qui ont été infructueuses et pas parce que trop protégées. Mais évidemment, tout ça n'est encore qu'une raison de plus pour se donner rendez-vous à la prochaine grosse date qui se profile, qui sera donc vendredi prochain.
Et comme quoi, c'est pas vrai que les grévistes n'essaient d'emmerder que les usagers des transports publics. On veut évidemment aussi s'en prendre au gouvernement, c'est juste beaucoup moins facile. Pour terminer, on va vous parler de cette histoire de l'éboueur licencié à cause d'une photo au prud'homme. Vous en avez certainement entendu parler parce qu'on en parle beaucoup maintenant, mais un petit retour sur les faits s'impose quand même. En septembre 2018, Adama Cissé, agent de la propreté de la ville de Paris, s'allonge sur un muret pendant sa pause. Une habitante de Paris le prend en photo et s'empresse de poster sur Twitter le message suivant. Ce soir à 17h40, rue Jean Lantier, 75001 Paris. Voilà à quoi servent les impôts locaux des Parisiens, à payer les agents de propreté à roupiller, On comprend pourquoi Paris est si dégueulasse. Un bel acte de délation de cette femme bien acharnée puisqu'elle a tagué dans son message BFM TV et le présentateur Jean-Jacques Bourdin et a doublé son post Twitter d'un post Facebook. Bref, elle était bien remontée contre les pauvres qui osent ne pas travailler non-stop, bien qu'on ne doute pas qu'elle ne soit pas si occupée elle-même pour avoir de tels hobbies. Et il lui semblait incroyable qu'on puisse prendre une pause. Peut-être aurait-elle préféré qu'Adama fasse semblant de travailler quand il n'avait rien à faire. Et puis elle entendait bien que les médias s'emparent du sujet. Elle obtient gain de cause puisqu'elle trouve sur les réseaux sociaux des camarades de délation qui rêvent de voir les pauvres se rendre malades au travail. Ces posts sont suffisamment relayés pour qu'ils attirent l'attention de la mairie de Paris qui demande à son sous-traitant, la société Polysotis, filiale du groupe de Richebourg, de renvoyer Adama. Il est effectivement renvoyé pour faute grave le 11 octobre 2018. Alors oui, pour faute grave, pour s'être allongé pendant sa pause. L'affaire remonte un peu, mais on en reparle parce que depuis, Adama Cissé a porté son cas devant les prud'hommes et on lui souhaite bien évidemment d'obtenir gain de cause puisqu'il est inadmissible d'être sanctionné pour s'être opposé durant sa pause ou même tout simplement parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Pour la délatrice, malheureusement, on ne peut rien faire à part faire passer le message qu'elle n'est définitivement pas dans notre camp et on lui souhaite de mourir au travail qu'elle semble tellement aimer. On en reparle aussi parce que des actions de soutien ont eu lieu et c'est d'assez bonnes nouvelles pour qu'on les mentionne. D'abord, des gens se sont mobilisés virtuellement sur les réseaux sociaux à l'annonce du licenciement d'Adama, en mentionnant son ancien employeur et en relayant la défense d'Adama, qui ne cesse de répéter qu'il était sur son temps de pause, et les internautes ont aussi comparé des photos de députés roupillant sur leur temps de travail à celles d'Adama, qui donc roupillait durant sa pause. À croire que ce soit autorisé de dormir sur son lieu de travail quand on est blanc et en costard, mais pas quand on est noir et éboueur. Des agents de la SNCF et de la RATP, enfin, qui ne sont peut-être pas aussi égoïstes que les médias le disent, ont envahi mercredi dernier le siège de Richebourg, la société qui a licencié les boueurs, pour demander sa réintégration. Ils ont obtenu une entrevue pour Adama Cissé et on attend le rendu des prud'hommes. Bon bref, que ceux qui ne jurent que par le travail s'y tuent les premiers et qui laissent les autres tranquilles. On va terminer par un petit agenda.
Oui, un petit agenda.
Un petit agenda rapide, je vais vous dire quelques dates. Demain, il y a une table ronde de sport et personnes LGBTI+, sur le campus de la DOI de l'UFR STAPS. C'est à 14h. À 14h30, vous pouvez vous rendre place de la comédie pour, je crois, la deuxième partie d'une opération intitulée La part du gâteau, à 17h30 à la bibliothèque universitaire de la DOI, où le président de l'université vient fêter la galette des rois. Et il semble que c'est le moment de lui réclamer notre part. Le soir, à 18h30, il y a une AG féministe contre la réforme des retraites à la Bourse du Travail, salle C. Mercredi, rassemblement et manifestation contre la réforme des retraites. Rendez-vous à 14h30 au rectorat. Et puis jeudi 23, il y a Marche au flambeau à 16h30. Je vous lis le petit texte qui l'introduit. Depuis le 5 décembre, nous vivons un mouvement massif contre la réforme des retraites annoncée par le gouvernement, mais plus encore contre l'orientation globale de la politique. C'est aujourd'hui la grève générale et reconductible qui est à l'ordre du jour pour faire plier Macron et son monde. Cet article recense, bon là vous verrez tous les rendez-vous sous Rébellion, et là le rendez-vous c'est à Pardieu. Pour les dates suivantes, n'hésitez pas à consulter le site rebellion.info.
Oui, une dernière date, on a demain aussi des ateliers animés par le jeune Épi, des ateliers anticarcéraux à l'espace communal de la Guillotière qui se trouve très exactement...
J'ai oublié l'adresse, mais toutes les infos sont sur rebellion.info. Voilà. Ben, on vous laisse. On vous dit à la semaine prochaine. Et puis voilà. Restez, on vous remet les bandes continues et puis restez à l'antenne pour écouter ensuite Blasphème FM.
Et on vient de s'écouter Arcana avec le titre Le Serpent Rouge, suivi de Zone avec le titre The Wheel, et en terminant par Mademoiselle avec le titre Freaks, Radio Canu, la radio la plus... En tout cas, la radio que vous aimez.
Everything seems so small, so calm, so quiet. As if the